Voilà, on va pouvoir reprendre le cours des séances avec une séance sur le mystère pascal aujourd'hui, en deux parties. Donc on verra la première partie aujourd'hui. Donc cette première partie, c'est la passion du Christ. Mais comme on ne s'est pas vu depuis 15 jours, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, qui vient à la suite, qui vient enfin juste avant notre cours d'aujourd'hui, puisque ça s'enchaîne de manière assez linéaire. Donc la dernière fois, nous avions parlé de l'incarnation, et nous avions vu que l'incarnation, c'est un acte de Dieu lui-même, pour le Fils, en vue des hommes. Ça, c'est le mouvement de l'incarnation. Et donc, il y a un mouvement dans l'incarnation, on avait parlé même de mouvement d'extériorisation, je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait parlé de ça, de la part de Dieu, le fait de s'incarner, de se faire connaître en personne, il y a en lui un mouvement d'extériorisation de sa part. Et donc le but de cet acte, c'est bien entendu le salut des hommes. C'est pourquoi incarnation et salut sont liés, on ne les dissocie pas. Karl Barth dit « L'acte d'incarnation est aussi un acte de rédemption. » Donc nous avions vu ça. Maintenant, l'incarnation, on doit la voir comme une action de puissance de la part de Dieu. Et en même temps, le paradoxe veut que celui qui est incarné, la deuxième personne de la Trinité, le Fils, et donc Dieu lui-même, se retrouve dans une situation de faiblesse. On va parler de kénose en théologie. Ça veut dire que Dieu se vide de lui-même. Il y a une action kénotique. Voilà, c'est ça la kénose. Kénose. Dieu se vide d'une action, c'est l'action de se vider. Et on parle même de double kénose pour Dieu, c'est l'incarnation et la passion, la croix. C'est la mort du Fils. Donc l'incarnation, et ben le petit homme dans la crèche, et puis là, c'est la croix. Donc on a déjà face à nous, face à un Dieu qui se révèle, le paradoxe d'une puissance en action et en même temps d'une puissance qui se fait la plus faible, la plus fragile. Saint Paul a très bien vu cela, hein, quand il parlait de folie, la croix est folie pour les hommes et sagesse pour Dieu. Donc Dieu accepte, il consent à se faire connaître lui-même et il consent par le Fils à mourir sur la croix. Donc c'est pour cela que nous abordons aujourd'hui, après l'incarnation, ce temps de la passion. Et pour aller vers ce temps, cheminer vers ce moment de la crucifixion, il est bon de revenir sur les éléments qui ont amené Jésus de Nazareth à être crucifié. Et c'est donc notre premier point, Jésus de Nazareth, l'itinéraire de Jésus. L'itinéraire de Jésus s'inscrit dans un mouvement. Alors évidemment, c'est un mouvement rédempteur, puisque l'incarnation est en vue du salut. Mais dans un mouvement qui est initié par Dieu pour l'homme. Mais l'initiative de Jésus de Nazareth, fils de Dieu, c'est une initiative qui va lui appartenir en propre. Quelle est cette initiative ? eh bien, c'est celle de choisir les hommes qui formeront son groupe de disciples. Donc, il les choisit, on pourrait dire, en toute liberté. Et il les choisit, bien sûr, au nom de la mission que le Père lui a confiée. Donc, pour mettre en œuvre sa mission, c'est-à-dire pour commencer la mission, eh bien, Jésus a besoin, il n'est pas tout seul. Donc, il choisit des hommes, des apôtres. Alors, je disais prophètes parce que cela nous renvoie à la dimension théologique de l'élection dans l'Ancien Testament, où il y avait aussi une élection. Dieu choisissait des prophètes pour transmettre son message. Eh bien, je ne pourrais pas dire de la même façon, mais la dimension d'élection, de choix, elle est aussi tout à fait active de la part de Jésus. Et Jésus va décider du moment de sa prédication. Le début de l'enseignement, c'est lui qui l'a choisi. Pendant 30 ans, on connaît Jésus de Nazareth, fils de Marie et de Joseph, et à un moment donné qu'il a choisi, il décide de demander le baptême, ce baptême à Jean-Baptiste, et puis, à partir de là, sa mission prendra toute son ampleur, l'enseignement, l'annonce, les guérisons. Alors, quand je parle d'annonce, pour l'instant, je parle que d'annonce de la présence du royaume. On n'en est pas encore aux annonces de la passion. Donc, le ministère de Jésus commence avec le baptême. Et souvenez-vous, souvent c'est représenté par une colombe et celle qui descend sur Jésus et cette voix qui dit « Voici le Fils, aujourd'hui je l'ai engendré, ce Fils bien-aimé, écoutez-le » et matérialisé par cette colombe qui descend et qui vient inaugurer le ministère de Jésus. Mais le cœur de la prédication de Jésus au départ, c'est l'annonce du royaume de Dieu. Et c'est Marc qui en parle peut-être, enfin en tout cas qui commence son évangile avec cette annonce du royaume. Marc chapitre 1 verset 15, il dit « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Le règne de Dieu s'est approché. Le règne de Dieu, c'est Jésus lui-même. Alors, ce n'est pas quelque chose ne s'approche pas de nous. Quelqu'un s'approche de nous. Et donc, le royaume de Dieu, c'est bien Jésus lui-même. Et c'est pas simplement qu'il s'approche, c'est qu'il est déjà actif au milieu des hommes dans le temps qui est celui de Jésus. Le royaume est présent. Donc, la parole de Jésus va se faire prédication, elle va se faire action, puisque les miracles sont des actions qui vont témoigner que le règne de Dieu est en marche, est là, et agit déjà. Les miracles sont les signes de la présence du royaume de Dieu. Donc, Jésus guérit les corps, les esprits, et Jésus va enseigner. Et toute sa parole va se déployer dans un enseignement. Un enseignement pour les foules et un enseignement pour ses disciples. Alors la plupart du temps, l'enseignement destiné aux foules, les apôtres en profitent, pour ainsi dire. Mais Jésus se fait aussi pédagogue particulier pour eux. Il va expliquer les paraboles, comme la parabole du semeur. Donc il va se faire l'exégète de son propre enseignement pour que ses disciples puissent comprendre et entrer dans l'intelligence de ses paroles. Ça, c'est tout à fait particulier. Et donc, paroles et enseignements de Jésus sont des actes de salut déjà présents dans le monde dans lequel Jésus a décidé, ou le Père a décidé d'incarner le Fils. Donc tout cela, cela constitue l'unité de sa mission. Sa mission, ce n'est pas une mission de parole, une mission d'acte, une mission de prédication. C'est tout cela qui fait sa mission. Il y a une unité indissociable. Comme on ne peut pas dissocier Jésus de son œuvre. Il n'y a pas Jésus et ce qu'il fait. Il est lui-même l'action de ce qu'il fait. Il est lui-même, on ne dissocie pas l'un et l'autre. Alors justement, cette mission qu'il a reçue du Père, c'est le point 1-2. La mission reçue du Père. Donc sa mission, je le redis, c'est l'action et la prédication. Et sa mission, c'est de réaliser, et peut-être même plus, d'accomplir la promesse du salut vétérotestamentaire, c'est-à-dire vétérotestamentaire, la promesse qui a été faite dans l'Ancien Testament. Jésus vient réaliser et vient accomplir cette promesse. Donc la promesse faite dans l'Ancien Testament, Jésus vient l'accomplir en lui-même dans le Nouveau Testament. Il la réalise. Tout en pensant l'unité, on ne sépare pas. C'est-à-dire que le Nouveau Testament est intégré, ou l'Ancien Testament est intégré dans le Nouveau Testament, pour ainsi dire, hein, en quelque sorte, on va dire. Donc la mission que Jésus reçoit du Père vont aussi révéler la filiation entre eux. Le Fils reçoit du Père une mission. Donc quand on dit Père et Fils, on est déjà dans une filiation, et dans une filiation divine. Mais cela ne signifie pas que leur relation, elle est exclusive. Elle n'est pas bilatérale, elle n'est pas exclusive. Ce n'est pas le Père et le Fils et le Père. Parce que la relation, elle se déploie avec l'Esprit qui leur est commun. C'est une relation trinitaire. Et donc, l'Esprit est aussi celui qui s'est matérialisé dans cette colombe descendant le jour de du baptême qu'il a reçu. Voilà, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, ça s'est matérialisé. Donc la relation ne peut pas être une relation bilatérale du père, de père à fils, enfin comme on penserait de manière tout à fait humaine et logique. Non, l'esprit vient consolider, enfin pas consolider, ce serait idiot de dire ça, mais la relation est une relation éminemment trinitaire. Parce que le risque, si on réduisait uniquement à la relation père-fils, ce serait de réduire leur relation à une relation d'autorité et d'obéissance. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. L'obéissance du fils n'est pas une obéissance servile. Ce n'est pas un ordre qu'il aurait reçu du père qui mettrait en œuvre. On est dans une fidélité à la mission. Parce qu'il y a un amour profond, et c'est bien ce qui vient bouleverser la loi mosaïque, qui vient bouleverser la dimension de justice et de puissance que les Juifs avaient de Dieu, à savoir l'amour et l'amour du prochain. Donc, dans cette relation trinitaire, et parce que Jésus a l'Esprit du Père, qui leur est commun, eh bien, il parle avec autorité. Et il va mener sa mission avec autorité. Et donc, vous voyez, quand je vous dis cela, on commence à poser les jalons de ce qui va amener Jésus à la croix. Il parle avec autorité, il exerce une liberté qui lui appartient en propre, il réalise, il fait des actes miraculeux, il guérit, du coup les foules le suivent, elles l'écoutent, et comme on ne dissocie jamais Jésus de son contexte, c'est-à-dire du milieu historique dans lequel il est venu dans le monde, eh bien on n'oublie pas qu'on est dans une situation d'occupation romaine et que pour les Romains, tout désordre public, eh bien, mérite d'être condamné. Alors, pas forcément condamné à mort. Donc voyons un petit peu les motifs de la haine. C'est notre point 1.3. Donc si on reprend un petit peu les faits. Jésus a donc commencé par former un groupe d'hommes autour de lui. Il a rassemblé les foules. Il prononçait des mots et il faisait des gestes qui sauvent, ou qui sauvaient. Et bien sûr que ça le rendait populaire. Donc partout où Jésus allait, il était suivi avec des foules plus ou moins importantes. Et donc, ce Jésus de Nazareth, qui était déjà connu, vient comme ça soulever des mouvements de foule, et pour l'époque, c'était totalement inattendu. Et pour les Romains, et pour les religieux et pour les juifs. Ça, c'était totalement inédit. Donc, la popularité de Jésus devient un problème pour lui. C'est-à-dire que les problèmes vont commencer pour lui. Cette popularité est au contraire un motif de haine. Pourquoi un motif de haine ? D'abord parce que les Romains voient d'un très mauvais œil le désordre, des guérisons, des prédications. On n'oublie pas que les Romains étaient païens et que ces manifestations, ces divinations qu'ils interprétaient comme cela étaient normalement réservées aux oracles et aux rites qui les concernaient. Donc pour l'autorité romaine, Jésus est un homme qui dérange et qui fait des ordres. D'abord, c'est lié à la religion, comme je vous le disais, et face à la religion païenne. Et comme les Romains craignent tout débordement, alors ils ne vont pas tolérer que Jésus puisse ainsi manifester son autorité auprès des foules. Et puis ensuite, il y a la dimension religieuse de ses actes et de ses paroles, pas simplement par rapport au monde païen, mais vis-à-vis des docteurs de la loi, vis-à-vis des prêtres du temple. Donc la haine va devenir le catalyseur qui va entraîner non plus la popularité de Jésus, mais en tout cas, on va dire, une autorité gouvernante, qu'elle soit religieuse ou romaine, une autorité qui va mettre Jésus déjà au banc, en tout cas, il va être considéré comme l'homme dérangeant, comme celui qui dérange. On a vu quelles étaient les difficultés pour les Romains. Ben voyons quelles sont les difficultés pour les Juifs, la religion juive. L'Écriture, le Nouveau Testament, nous dit tout cela. D'abord, les Juifs reprochent à Jésus le fait qu'il enfreigne le commandement du sabbat. Voilà, le commandement juif du sabbat. Jésus guérit le jour du sabbat. Ensuite, on voit qu'il ne respecte pas les prescriptions de pureté. Souvenez-vous, il va manger chez les publicains, il ne se lave pas les mains, les ablutions, il ne fait pas les ablutions, on lui en fait reproche. Il fréquente les pécheurs et il mange avec eux. Et aussi, il critique la loi. Alors, pas dans une critique politique, mais on voit bien qu'il vient transformer la loi et qu'il interprète la loi d'une manière tout à fait nouvelle, en y adjoignant l'amour du prochain, par exemple, la miséricorde de Dieu. Parce que la représentation juive de la justice, de la puissance et de la miséricorde de Dieu ne sont pas celles que Jésus vient apporter. C'est la nouveauté de sa venue. Et puis la dernière chose qui est peut-être la plus importante et qui lui vaudra sûrement la condamnation, c'est que Jésus pardonne les péchés. Qui est-il pour pardonner les péchés ? Il guérit le paralytique, la femme adultère, Voilà, les anciens sont partis. Donc, en conséquence de quoi ? Ben, l'attitude et les paroles de Jésus vont donc, comme je vous le disais, remettre en question la représentation juive de la justice et de la miséricorde. Ce qui fait loi, ce sont les commandements, c'est la loi mosaïque. Et la loi mosaïque, elle est close. Et voilà que Jésus vient apporter une nouveauté qui vient accomplir cette loi, puisque on le lit bien dans les évangiles, il ne vient pas abolir la loi, mais il vient l'accomplir. À tout cela, je n'ai pas ajouté les interdits alimentaires. Hein. Il y avait les prescriptions de pureté, mais il y avait aussi les interdits alimentaires qui vaudra à Pierre de faire ce songe où il y a dans le drap qui descend à la fois des bêtes pures et d'autres impures. Voilà, songe qui lui vaudra d'être interprété comme la prédication auprès des païens aussi. Donc Jésus, on voit bien, il se retrouve dans une situation particulièrement délicate parce qu'il est rejeté par les religieux et il est mal vu de la part des autorités romaines. Donc il représente une menace. Et dès l'instant où Jésus représente une menace, alors il deviendra l'homme à abattre, celui qu'il faudra éliminer. Donc, pour l'autorité religieuse, eh bien, si Jésus remet en question la loi mosaïque, alors il représente une menace pour la religion juive. Et donc, on sait très bien que les Juifs, en sous-occupation romaine, c'était la seule religion qui était autorisée. Donc, la fragilité de l'existence des Juifs pratiquant leur religion à ce moment-là, elle est tout à fait claire. Et comme les Juifs n'ont pas d'autorité politique, eh bien, ils s'en remettent aux Romains. Mais les Romains sont des gens pragmatiques, c'est-à-dire qu'il leur faut des raisons de condamner Jésus. Et donc, on va aller chercher des raisons, mais des raisons, on n'en trouve pas. Donc, les Juifs vont essayer de trouver des témoignages, mais plutôt de faux témoignages. Et ça, c'est notre texte, le premier texte que je vous ai sélectionné, Matthieu 26, 1, 5. On va commencer à se mettre en place de faux témoignages, les mensonges qui vont permettre, en tout cas au Sanhédrin, par la suite de condamner aussi Jésus. Voilà ce que nous dit Matthieu. « Or, quand Jésus eut achevé toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous le savez, dans 2 jours, c'est la Pâque. Le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du grand prêtre, qui s'appelait Caïphe. Ils tombèrent d'accord pour arrêter Jésus par ruse et le tuer. Toutefois, ils disaient, pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. » Donc voilà, le scénario se met en place, et tout se met en place pour l'arrestation de Jésus. Et c'est notre point 2, arrestation et condamnation de Jésus. Voyons de plus près quels sont les motifs de l'arrestation et de la condamnation. J'ai l'impression d'aller vite, non ? Ça va ? Voyons ce premier motif. Le premier motif se basera sur le faux témoignage. Et on peut le lire dans Marc, chapitre 14, verset 55. Je vous lis le texte. « Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage pour le faire condamner à mort, et ils n'en trouvaient pas. » Donc, voilà, on va poursuivre un petit peu plus loin, j'ai repris les versets 57-58. « Donc, quelques-uns se levaient pour donner un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu qui disait, je détruirai ce sanctuaire fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. » Donc, le faux témoignage, le premier motif, c'est la destruction du temple. Mais on voit bien que là, l'interprétation de la parole de Jésus est une interprétation à la lettre. Voilà, au premier degré. Bien entendu que Jésus ne parlait pas de la destruction du bâtiment, des pierres. Donc le premier motif que les grands prêtres du Sanhédrin évoqueront, ce sera la destruction du temple. Le deuxième motif, là il se rapporte à la question du Messie. Toujours chez Marc, la suite des versets 61 et 62. Ça c'est quand le grand prêtre interroge Jésus et lui demande « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus lui dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Donc on peut s'arrêter un petit instant sur le « Je suis ». C'est-à-dire que là, encore une fois, on avait vu les égoémies la dernière fois, il me semble. C'est avec vous, les je suis, Joannick, c'est pas avec vous? Oui. Si? Oui. Bon, alors ça viendra peut-être. Voilà. Dans l'évangile de Jean, il y a, de manière récurrente, tout au long de l'évangile, le je suis le pain, je suis la vigne, je suis le bon berger, je suis le berger, je suis la porte. C'est-à-dire des je suis tout à fait récurrents. Dans l'évangile de Jean, je pense que vous avez déjà lu ceci. Eh bien, Jésus, comment dire, il va révéler son identité, il dit qui il est. Et quand on lit et quand on entend « je suis », eh bien, on doit tout de suite avoir en tête l'écho, Exode 3,14, Dieu lui-même qui se révèle et qui dit « je suis » ou « je suis qui je serai ». Donc le « je suis » qui est repris dans l'évangile est déjà, et que Jésus reprend là, à quelques instants de mourir, il révèle lui-même cette identité. « Je le suis et vous verrez le Fils de l'homme siégé à la droite de la puissance. » Donc on peut relever cela. Donc le deuxième motif de condamnation, c'est l'affirmation d'être le Messie. Et donc le Messie, c'est Messia en grec, ou Machia plus exactement en grec, en latin, qui va donner Christos, qui va donner le oint. Et être oint, c'est le roi qui est oint. Et donc pour les Romains, ben, la royauté, d'être, se déclarer être le Messie, c'est se mettre en concurrence directement avec le roi, avec l'empereur. Donc, Ça résonne pour les Romains. Autant la destruction du temple, ça ne les concerne pas, ça concerne la dimension religieuse, mais autant de dire qui serait le oint, qui serait le roi, ça le met en concurrence directe avec la notion de royauté et d'empereur. Et d'ailleurs, dans l'interrogatoire qui aura lieu entre Pilate et Jésus. Pilate, c'est précisément la question qu'il posera à Jésus, mais il lui pose d'une certaine manière. Il lui dit « Tu es le roi des Juifs ?» C'est bien la question de la royauté. Parce que la question de la royauté met en œuvre la question de l'autorité, la question de la suprématie. Et donc, dans ce temps romain, d'occupation romaine, bien entendu que celui qui a la suprématie, c'est l'empereur. Ce qui est étonnant, c'est que la question, si on enlève le point d'interrogation, elle est formulée comme une affirmation. Tu es le roi des Juifs, il y faut le ton. S'il n'y a pas le ton, il y a là, cohabite dans cette question, à la fois l'affirmation et l'interrogation. Donc c'est « tu es » et non pas « es-tu ». Donc quoi qu'il en soit de ce deuxième motif, eh bien les Romains vont accuser Jésus d'être un blasphémateur. Et donc le troisième motif, c'est le fait de blasphémer. Donc blasphémateur non pas contre la religion juive, mais contre l'Empire et la religion païenne. Donc vous voyez tous les éléments, les motifs de la haine, partant de sa parole, de sa prédication, des miracles, de la popularité, amène Jésus à être considéré comme une menace. Une menace pour les religieux, pour la religion, hein, c'est même plus que ça, hein, c'est pour la religion juive, c'est-à-dire pour l'existence de la religion juive dans son temps d'occupation, et aussi pour les Romains. Et donc on en arrive, puisqu'on est sous autorité romaine, eh bien, la condamnation ne peut pas se faire sans un procès. Et donc, voilà Jésus qui se retrouve face à ses détracteurs dans un procès. Et ce qui est étonnant, c'est que les récits de la Passion, eh bien, sont rédigés sous forme de procès. Et ça, ça doit nous interpeller. Il y a une raison particulière à cela. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc c'est le point 2.2, des récits de la Passion sous forme de procès. Parce qu'effectivement, on peut se demander pourquoi les récits de la Passion sont justement rédigés sous cette forme-là. Parce que cette forme de procès n'est pas tout à fait anodine. Et ça nous dit même quelque chose de la manière dont les évangélistes ont relu et ont voulu insister sur l'idée de parodie de procès. Parce que bien sûr, Jésus est l'innocent. Donc tous les motifs que nous avons égrenés là sont de faux motifs. Donc si ces faux motifs sont repris dans un procès, eh bien les évangélistes, reprenant cette forme-là, veulent insister sur le fait que on est face à une parodie de procès. Parce que Jésus n'a commis aucun délit de droit commun. Il n'a tué personne, il n'a pas volé. Et donc, montrant le caractère un petit peu, enfin, on pourrait dire insensé de cette forme-là, permet d'insister sur le caractère révoltant aussi de cette condamnation. Et que, en fait, c'est toute la personne de Jésus qui est rejetée. Ça, c'est important parce qu'il a concentré en lui-même la haine des religieux, la méfiance des autorités romaines, mais au bout du compte, on voit bien que la personne même de Jésus concentre toute la haine, au point que les foules, et j'imagine bien que parmi les personnes dans la foule, il y avait des gens qui avaient bénéficié des guérisons de Jésus, eh bien, au point que tous, en tout cas la plupart, demandent la mort de Jésus. Donc il a focalisé sur sa personne, cristallisé sur sa personne, toute la haine de l'époque avec, on pourrait dire, tous les mouvements de foule qui vont avec. Donc, au bout du compte, la vie publique de Jésus, qui a été très courte, l'amène à la croix, l'amène à la condamnation, et on pourrait presque se dire, finalement, c'est l'échec de sa mission, puisque finalement, ça va se terminer par une arrestation, par un procès, par une condamnation, et finalement, par la mort. Donc c'est tout à fait dérangeant, c'est tout à fait paradoxal de se dire cela. Simplement, on voit bien qu'on ne peut pas en rester au niveau factuel de tout cela. Et heureusement que les disciples ont fait une relecture de tout ce qui s'est passé, pas simplement au moment où Jésus est arrêté, où il est condamné, où il meurt sur la croix, et même au moment où il est ressuscité, mais leur relecture, c'est une relecture depuis le début où Jésus prédit, où il les choisit, où il annonce, où par trois fois son arrêt à sa mort et sa résurrection. Donc on voit bien que le travail des disciples et le travail des évangélistes qui ont décidé à un moment donné de mettre par écrit, sous forme de procès, c'est l'aboutissement d'une relecture de tout ce qu'a été la vie de Jésus. Donc l'interprétation qu'ils font, c'est une interprétation que nous nous faisons aujourd'hui en décortiquant. Ben voilà, le premier motif, c'est la destruction du temple. Le deuxième motif, c'est ça va être le pardon des péchés. Ben, ça, nous, on peut le faire aujourd'hui parce qu'on a les Écritures. Mais on voit bien que les auteurs sacrés qui ont rédigé les Écritures l'ont fait sous l'inspiration de l'Esprit en construisant des écrits à partir de ce qu'ils ont compris après la résurrection. Donc, c'est intéressant pour nous de comprendre qu'il n'est pas anodin que l'arrestation et la passion de Jésus soient rédigées sous cette forme-là, sur cette forme de procès. Et c'est intéressant parce que du coup, cette forme de procès, les évangélistes vont en faire un temps de prédication. Vous voyez, en partant des événements factuels qui sont arrivés à Jésus, eh bien, ils vont en faire un lieu de prédication. Et de prédication en dépit de cette forme-là. Vous voyez l'adresse et sûrement l'inspiration de l'esprit dans cette adresse-là, c'est on n'est plus devant. Enfin, moi, je ne suis pas avocate, mais vous imaginez, enfin, je ne sais pas, le récit d'un. Je ne sais pas comment ça s'appelle. La délibération après un jugement, les actes de cette délibération sont factuels. Eh bien, vous voyez bien le retournement des évangélistes de cette forme de procès, ils vont en faire un lieu de prédication. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Donc, voyons notre point 3, la passion de Jésus. Et le point 3.1, Jésus accepte sa mort. Donc ce procès, vous savez bien, donc aboutit à la crucifixion, à un supplice romain qui est la croix, et Jésus accepte ce supplice. Et il accepte l'humiliation de ce supplice en plus. Je vous le disais en commençant, Paul, lui, considère que c'est une folie pour les hommes et une sagesse pour Dieu. On est toujours face au paradoxe. Paradoxe de la puissance de Dieu par rapport à la faiblesse, on est toujours en... Et c'est une des originalités de la foi chrétienne aussi, d'être en paradoxe, souvent, la plupart du temps. Donc Jésus accepte cette mort et il accepte cette mort-là. C'est quand même particulier. C'est-à-dire qu'il accepte de mourir comme un brigand, lui l'innocent. Donc ça veut dire qu'il accepte cette condamnation, il ne se rebelle pas, et Jésus, fils de Dieu, va mourir sur la croix comme un homme, parce que les deux larrons qui sont de chaque côté de sa croix meurent comme lui, et Jésus meurt comme les deux larrons. Enfin, il meurt comme eux, on peut dire ça, sauf qu'il ne meurt pas comme tous les hommes. Vous voyez la différence? Jésus meurt condamné à mort. Donc Jésus, fils de Dieu, meurt comme un homme, mais pas comme tous les hommes. Et ça, c'est une particularité. Donc ça veut dire que sa mission, il va la mener jusqu'à l'extrême, qui est l'extrême de la condamnation à mort et qui est l'extrême de la croix. Et donc il va la vivre pleinement, totalement, et qu'il ne va pas faire semblant de souffrir sur la croix comme les docètes le pensaient. Les Docètes pensaient que Jésus, comme étant fils de Dieu, ben finalement sur la croix, avait fait semblant de mourir, semblant de souffrir. Les Docètes, ce sont des, c'est une hérésie des premiers siècles. Les Docètes, c'est à partir d'un terme grec qui veut dire dokeos. Dokeos, ça veut dire semblant. Semblant, faire semblant. Voilà. Et donc, ceux qui pensaient que Jésus, sur la croix, c'est pas qu'il avait fait semblant, mais il ne pouvait pas souffrir puisqu'il était le Fils de Dieu. Ça veut dire que Jésus était hyper divinisé, pour ainsi dire. C'est-à-dire que, au lieu de tenir l'équilibre entre sa nature humaine et sa nature divine, donc là on est dans les premiers siècles après sa mort, eh bien, toute la divinisation de Jésus était tellement importante que le Fils de Dieu, vu qu'il est divin, il ne peut pas souffrir. Donc les adeptes, ceux qui pensaient cela, eh bien, on appelle ça, c'était les docètes. D'où l'hérésie du docétisme. Bon, il y en avait d'autres, des hérésies docétisme. Vous voyez, c'est toujours le risque aussi de briser l'unité. La nature divine et la nature humaine, nature divine et la nature humaine du Christ ne se divisent pas, on ne sépare pas. Il n'y a pas de fusion des natures. Voilà. Donc là, c'était une manière de séparer les deux natures. Donc Jésus est allé jusqu'au bout. Il n'a pas fait semblant de mourir, il est vraiment mort. Donc, qu'en est-il de la mission ? On pourrait se poser, c'est tout à fait légitime. Qu'en est-il de la mission qu'il a reçue de son Père, puisque ça se termine à la croix et légitimement, on pourrait se dire, c'est un échec. Pourtant, on voit bien dans l'articulation tout à fait paradoxale entre puissance et faiblesse, que Jésus, il n'a pas aménagé la parole d'autorité, il a toujours parlé avec autorité, il n'a pas parlé,
je me tourne vers vous, je me suis plus.
Voilà le parler correct. Le politiquement correct. Jésus n'a pas aménagé son discours pour être dans le politiquement correct et pour ne pas être ennuyé. Il a prononcé les paroles qu'il devait prononcer, il est allé jusqu'au bout de ce qu'il devait dire et de ce qu'il devait faire au nom de la mission qu'il a reçue du Père. Donc vous voyez bien, cette mort sur la croix, elle montre aussi la puissance de Jésus, Fils de Dieu, qui n'a pas dérogé, qui n'a pas aménagé son autorité et qui est allé jusqu'au bout. Et surtout, cela montre qu'il ne s'est pas laissé enfermer dans la condamnation humaine. Ça, c'est peut-être le plus important. C'est que la condamnation humaine de Jésus n'enferme pas sa mission, ne la détruit pas. Parce que la condamnation, comme je le dis, c'est la condamnation humaine. Et à cette condamnation humaine, la réponse de Dieu, du Père, c'est la résurrection. Donc à nouveau, une articulation entre la puissance et la faiblesse. Donc même dans cette condamnation, c'est Jésus qui décide. Quand celui qui est au pied de la croix lui dit « descends de ta croix, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix ». Si Jésus était descendu de sa croix, je pense qu'on ne serait pas là pour en parler, en fait. Ça aurait été un fait magique, tout à fait... On n'en parlerait plus, mais voilà, c'est cela. Jésus n'a pas usé, le Fils de Dieu n'a pas usé de sa puissance, donc il consent à cela, il consent à mourir de cette façon-là. Et de fait, il montre bien aux autorités juives qu'il est bien celui qu'il est en divinité et en humanité. Il n'est pas autre chose que cela. et qu'acceptant de mourir, il reste et demeure fidèle à la mission qu'il a reçue du Père. Et qu'il reste fidèle aussi aux hommes, par amour, parce que quand même, ce serait tout de même étonnant qu'il y ait que du factuel. Jésus meurt par amour pour ceux à qui il s'est révélé, et pas autrement à cause de ça, c'est un amour qui sauve. Donc on voit bien que la parole de Jésus, si elle a rassemblé, eh bien, elle a aussi divisé. Et que finalement, sa parole s'est retournée contre lui et l'a amené à cette condamnation. Alors après, ça pose question... C'est notre point après, mais ça pose question sur la question de sur la dimension d'obéissance, par exemple. Faut-il voir l'obéissance de Jésus dans une dimension de soumission, de servilité, ou d'obéissance dans l'amour? Parce que ce serait oublier que dans la circulation, dans la relation trinitaire, il y a cette relation d'amour précisément. Et que l'obéissance de Jésus n'est pas une obéissance servile, mais c'est une obéissance en lien avec l'amour du Père pour le Fils dans l'Esprit en vue des hommes. C'est pas un amour restrictif. Et donc l'obéissance n'est pas différente de cette dimension d'amour, et qu'elle est même si la question de la preuve là, c'est malaisé, mais voyez, nous on pourrait le voir comme finalement là une preuve de l'amour, bien que Jésus n'ait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Mais si on voulait ramener ça d'un côté purement humain, ben oui, bien sûr, cette obéissance est une obéissance d'amour. Donc notre point 3.2, l'obéissance du Fils de Dieu est donc la forme du plus grand amour. Et cette obéissance-là, elle ne peut pas être comprise en dehors de cela, c'est-à-dire en dehors de l'amour que le Père a pour le Fils et que le Fils a pour le Père dans la relation de l'Esprit. Voilà. Et c'est donc par cet amour-là, c'est la voie par laquelle le Christ va jusqu'à l'extrême de l'amour pour les hommes. Il n'y a pas d'autre voie que cela. L'amour pour les hommes l'amène à la croix. Voilà. Et la croix devient le lieu de la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est un lieu de révélation, la croix. Et on le voit bien quand on connaît un peu l'évangile de Jean, que l'obéissance et l'amour, ben c'est un commandement du Père. Jean 10, verset 17-18, c'est pour cela que le Père m'aime, dit Jésus, parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais moi je la dépose de moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Donc vous voyez, dans ces deux versets, on a plusieurs choses. On a d'abord l'amour du Père pour le Fils. Hein. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je dépose ma vie, donc parce que Jésus lui-même est obéissant au Père par amour. Je dépose ma vie pour la reprendre, personne ne me l'enlève. Donc là, on voit bien la dimension, la force de la liberté de Jésus. Voilà, il n'est pas contraint, il le fait volontairement et avec autorité, puisqu'il a il la dépose de lui-même, il a le pouvoir de la déposer et de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Donc on voit bien qu'on est là dans une relation d'amour où le commandement n'est pas de l'ordre, de la... Ben justement, ce n'est pas une question d'ordre, c'est une question de mise en œuvre du salut par l'amour, précisément, par cet amour trinitaire, par cette circulation d'amour entre le Père et le Fils. Donc le Christ a consenti à mourir, non pas dans une résignation passive, parce qu'on voit bien, les deux versets de l'évangéliste Jean nous montrent bien que le Fils n'est pas résigné, qu'il n'est pas passif, mais il va transformer le consentement en don. Il ne s'agit plus de consentir dans l'obéissance, mais il s'agit d'un don. Et donc, du coup, l'obéissance devient, prend la dimension d'un acte de don. Et donc, l'obéissance, c'est un don. Et on pourrait même dire que l'obéissance de Jésus, c'est l'acte le plus achevé de l'amour. Voilà, c'est la forme la plus achevée de l'amour et peut-être même la forme du plus grand amour. La conclusion de cela, sur cette obéissance, est de dire, bah, du coup, dans ce cheminement-là, de la fidélité à l'obéissance, à la forme du plus grand amour, eh bien, du coup, l'obéissance de Jésus devient une grâce. Devient une grâce et nous recevons cette grâce. Donc ce qui est significatif, ce n'est pas tant l'obéissance elle-même, parce qu'au bout du compte, mais c'est la manière dont Jésus accepte de renoncer à être Dieu à la manière des hommes. Lorsque Jésus accepte de mourir sur la croix, et que les Juifs ne peuvent pas imaginer, envisager que si Jésus était vraiment le Messie, ils ne peuvent pas envisager que le Messie puisse mourir condamné à mort sur la croix. Qu'est-ce que vient faire Jésus ? Il vient bouleverser tout cela. Parce que Jésus va montrer en acceptant de mourir comme ça, qu'il refuse d'être celui qui correspond à la représentation humaine de Dieu. C'est ça le paradoxe. Et c'est en même temps, c'est la puissance de Dieu. Dieu refuse de correspondre à la manière dont les hommes envisagent la puissance de Dieu. Eh bien non, c'est une puissance qui s'envisage dans la faiblesse. Ça, c'était totalement inaudible pour les Juifs de l'époque. Et on le comprend. On sera à leur place, on aura un petit peu de mal, on le comprend. Mais vous voyez bien la nouveauté. Quand je vous parlais de paradoxe au début, c'est qu'on navigue tout le temps en paradoxe. Et que c'est l'originalité de notre foi chrétienne. Donc cette expérience, c'est la forme la plus radicale du renoncement. La plus radicale. C'est-à-dire de renoncer à la forme de Dieu selon les hommes. Mais ce renoncement, ben voilà, l'amène à la croix. Voilà, on peut peut-être faire la pause avant le point suivant. Mais avant d'arriver à cette œuvre d'art, on va continuer dans notre plan, le point 3.3, la mort de Jésus sur la croix, la souffrance du Fils de Dieu. Donc, sur la croix, Jésus a bien entendu, contrairement à ce que pensaient les docètes, a bien souffert sur la croix et souffert physiquement. Il a fait l'expérience de la souffrance physique, mais aussi de l'abandon. L'abandon des siens, de la trahison même, de ceux qu'il avait nourris, de ceux qu'il avait guéris. En tout cas pour la plupart, pas la totalité, mais en tout cas pour la plupart. Et donc sur la croix, Jésus s'adresse à son Père. Et c'est uniquement à son Père que Jésus s'adresse, à qui il dit « En tes mains, je remets mon esprit ». Donc la croix, et à la croix, eh bien, la relation trinitaire est manifestée. Lorsque le Fils du Père est sur la croix et qu'il dit « En tes mains, je remets mon esprit au moment de mourir », eh bien, la croix elle-même est le lieu de la révélation trinitaire, de la manifestation de la Trinité. Et donc, on voit bien qu'il y a une concordance des volontés, une concordance parfaite entre le Père, l'obéissance du Fils et la présence de l'Esprit. Donc, pour illustrer cette crucifixion, cette mort de Jésus sur la croix, je vous ai sélectionné un tableau qui est un tableau du peintre andalou Francisco de Zurbarán. Donc Francisco de Zurbarán, voilà, il est né en 1598 et il est mort en 1675. Et donc Francisco de Zurbarán, c'est donc un peintre espagnol, andalou. Il est contemporain de Velázquez, et Velázquez a d'ailleurs peint une crucifixion d'un tableau de Jésus en croix qui est peut-être plus belle que celle-ci. Mais voilà, Zurbarán, c'était le peintre de Séville, Velázquez, c'était le peintre de la cour. Mais ils sont contemporains, ils se connaissent, ils sont allés dans les mêmes ateliers. Zurbarán était très connu pour son époque en Andalousie, enfin à Séville. Il était très connu et il avait beaucoup de commandes provenant de monastères. Et donc c'était souvent des monastères masculins qui commandaient des œuvres à Zurbarán. Et de fait, ben, les monastères féminins à l'époque avaient moins les moyens financiers pour ce genre de commandes. Mais Zurbarán, il arrive à la jonction on peut peut-être même dire à la rupture entre deux modes de représentation. C'est-à-dire que ce soit Velázquez ou que ce soit Zurbarán, on entre dans une période picturale que l'on appelle le ténébrisme. Et donc cette période-là va rompre totalement avec l'autre période antérieure qui était le dolorisme. Et si vous avez déjà vu des œuvres d'art ou même dans des églises en Espagne, bah, ça pleure dans tous les sens, enfin, il y a vraiment une hyper-matérialisation de l'expression, de douleur, de choses comme ça. Là, Zurbarán, il va rompre ça. Il va rompre ça, et on parle de ténébrisme, parce que la plupart des tableaux, et la plupart de ces tableaux, le fond est foncé comme ça, et noir. Et si vous regardez bien, vous pouvez aller voir sur Internet, il a représenté beaucoup de saints, Saint Ambroise, voilà. Et puis alors des tableaux gigantesques, hein, ce n'est pas des petites œuvres, c'est pratiquement de pied en cap, quoi. C'est la personne en taille normale, quoi. Donc c'est très étonnant. Et donc ce tableau-là, moi je l'ai vu il y a une quinzaine d'années, au musée des Beaux-Arts de Séville, donc c'est un musée gratuit, hein, je vous conseille, à Séville. Et donc ce tableau, il était dans un couloir, donc vous arrivez, vous tournez, et pas vous tombez nez à nez avec le tableau gigantesque, hein, vraiment il prenait tout le mur, et on a vraiment, j'avais quoi, 1 mètre, 1 mètre 50 de recul, donc pratiquement pas de recul. Donc vous prenez ce Christ, pour ainsi dire, en pleine figure, et donc vous êtes complètement happé par ce Christ-là, par la beauté de ce Christ-là. Et là aussi, ça a été une de mes interrogations. Est-ce que je peux trouver beau le Christ en croix? Qu'est-ce qui me permet de trouver que ce Christ en croix est beau et magnifique. Vous voyez le paradoxe entre la beauté et le lieu du supplice. Et pourtant, cette œuvre est magnifique en raison d'éléments qu'on va voir ensemble. Voilà, justement. Donc l'idée, c'est pas que je parle tout le temps. L'idée aussi, c'est que vous regardiez l'œuvre et puis ensuite, on essaye de regarder. Je vais juste prendre mes papiers. Donc 2 minutes pour que vous regardiez le tableau. Alors, ce que je peux juste...
Permettez, que je vois de plus près.
Ah oui, attention au fil, surtout. Oui, bien sûr, rapprochez-vous.
Il a la taille, c'est la taille réelle, je veux dire, le Christ a la taille réelle, ou plus petite.
Alors, je dirais, le tableau, il doit faire 2,50 m.
Ah oui.
Ouais, il est très, c'est vraiment un grand tableau. Prenez tout le mur. Alors après, évidemment, la taille réelle, je ne saurais pas vous dire. Enfin,
oui, le tableau fait déjà 2,50 m.
Il fait 2,50 m, il a été restauré il y a 7-8 ans.
Moi, je trouve qu'on ne sent pas ce qu'elle peut te faire. Le tableau d'une grande quiétude,
oui.
On ne sent pas de souffrance. D'ailleurs, le visage est caché. Donc, oui. Il a un corps d'athlète, un beau corps. Et c'est peut-être ça qui...
Oui, vous avez cerné la rupture à ce moment-là de l'art, enfin de la représentation des crucifixions. C'est qu'on va rompre, Velázquez, tout comme sur Varane, ils vont rompre avec les Christs décharnés.
Ouais.
Ou même, je ne sais pas si vous avez déjà vu à Colmar, à Eisenheim, au musée des Sibylles. Voilà. Le triptyque de Grunewald, Matthias Grunewald, vous avez ce Christ absolument terrifiant, avec piqueté des chars. Vous connaissez tous ce.
Non. Le triptyque de Grunewald.
Ce Christ de Velázquez.
De
Zurbarán, je perds ma petite croix là, hop. Je vais essayer de vous retrouver. Pas sûr, hein. Atelier peut-être. C'est pas ça. Parce que c'est quand même quelque chose. Atelier théologie culture. Voilà, ça, vous allez pouvoir trouver ça.
C'est ça, c'est la même époque que Ribera, non?
Alors, c'est la même époque.
Exactement.
Je crois que Ribera, c'est un petit peu postérieur. Alors, attendez. Hop. Voilà. Ah ben non, pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, je sais. Voilà. Ça, c'est le Christ de Matthias Grunewald. Vous voyez? Et donc, dans ce Christ-là, ça, c'était une commande qui avait été faite pour l'hôpital des Antonins. Et donc, à l'hôpital des Antonins, à l'époque, il y avait les patients de l'hôpital étaient ceux qui souffraient de l'ergot de seigle. Et donc, c'est une maladie qui vient décomposer les chairs. Et donc, on voit bien que là, par exemple, vous voyez comment est le corps. C'est terrible, c'est terrifiant même.
Même les mains, c'est étonnant.
Les mains,
ouais.
C'est terrifiant. Regardez les pieds, il n'y a rien d'humain. Rien d'humain.
Et là,
à côté de Zurbarán.
Aussi,
comment?
À un moment, retournez, voilà. La photo d'après. Voilà. Mais il y a une patte d'animal, là.
Ouais, on dirait. C'est un angle.
Ben, en fait.
C'est le clou.
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 C'est le clou. Oui, parce qu'on pourrait croire que c'est un ongle ou une griffe. C'est le clou. Regardez.
Ah oui,
voilà. C'est le clou. C'est le clou. Et donc là, on est, vous voyez, 1511, 1507. Entre cette représentation-là et la représentation de Zurbaran, Pacheco est passé. C'est-à-dire qu'à partir, le traité esthétique de l'époque, c'est les pieds du crucifié sont séparés, chacun sur le storo, chacun sur un clou pour chaque pied. C'est-à-dire on sépare les deux pieds. Donc ça, c'est vraiment postérieur.
Il y a presque un siècle entre les deux.
Oui. Donc, voilà. Et donc là, ben, c'est vrai que ce tableau-là de Zurbaran, qui est authentifié de sa main, parce que comme il avait beaucoup de succès, Zurbaran, il avait beaucoup d'ateliers, beaucoup de commandes, et donc il avait beaucoup d'élèves qui peignaient comme Zurbaran. Ce qui fait que ça a été très compliqué pour le catalogue raisonné, pour les experts, d'authentifier toutes les représentations des Christ en croix. Alors il y en a d'autres où ils sont vraiment, où le pagne, on dirait des... Vous savez, comment ça s'appelait, là, des barboteuses. C'est des ridicules, voilà, c'est très gonflant comme ça. Donc voilà, alors que ce Christ-là, il est vraiment authentifié de la main de Zurbaran.
Mais il y a une personne qui veut le voir de près. Quand on le voit de loin, je ne sais pas ce qu'en pensent ceux qui sont plutôt vers ma zone, mais on a l'impression d'une tête d'animal.
Non.
Ah ben là, je vois
c'est
caché. C'est caché. On voit rien là.
Eh bien oui, mais c'est justement ça la rupture. Donc monsieur, vous avez raison. On ne voit pas le visage. Le corps de ce Christ est un corps musclé. Oui. Donc c'est un corps jeune. Oui. Et c'est un corps jeune qui ne... Voilà, à côté du Christ de Grunewald, on est moins saisi. Oui. C'est-à-dire que du coup... La musculature, le corps est fort, il y a une harmonie, le corps est stable, les deux pieds sont stables, il y a une harmonie dans le corps, une symétrie dans le corps qui fait que, et puis vous savez bien, dans l'art, c'est la symétrie qui fait l'harmonie. Il n'y a pas d'art sans géométrie, sans symétrie. Et donc on a là un triangle, même plusieurs triangles à la fois. Oui. On a le triangle comme ça. Ensuite, de là à là, on a deux triangles. Et puis le triangle ici. Donc on a vraiment une représentation tout à fait géométrique. Qu'est-ce qui rompt avec le...
Là, ce qui me frappe, c'est la lumière. Hein,
oui.
Une lumière très claire et très blanche. Hein,
oui.
Ça ressort beaucoup.
Ça, c'est Zurbaran. C'est vraiment sa marque de fabricant. Parce que vous voyez bien, la lumière, elle arrive de la droite du Christ, pour sa droite à lui. Il y a des choses qui nous étonnent. Alors, déjà, la blessure du côté, il n'y a pas de sang qui coule.
Ni des mains, ni des pieds.
Voilà, ni des mains, ni des pieds, contrairement à la représentation tout à l'heure où il y avait le sang qui coulait.
Le pagne accroche la lumière, le regard. Hein.
Oui.
Le pagne est très blanc, on sent beaucoup.
Le pagne est très blanc. Alors comment, alors qu'en fait, Jésus a cloué sur la croix, c'est le terme de son sacrifice. Donc il est tombé plusieurs fois, il a été malmené, il est tombé dans la poussière, enfin bon voilà. Donc le pagne blanc, comment on pourrait interpréter selon vous la blancheur de ce pagne?
C'est un symbole de pureté, la bleu blanc.
L'agneau. Symbole de pureté, oui, tout à fait.
L'agneau blanc.
Oui, pourquoi pas, oui, tout à fait, tout à fait.
Ribera, c'est 1591. 1552.
Oui, donc c'est un petit peu postérieur à Zurbaran, 1560. Il est mort Ah oui, en 1664. J'avais en termes 1564, oui. Ouais. Et vous avez des représentations de...
Il n'y a pas de Christ, je vois pas.
Non, je ne pense pas, je connais.
Et vous irez voir, si vous allez sur Internet, et allez voir le Christ de Velázquez. Il est vraiment magnifique, dans cette même facture que celui-ci. Donc le pagne blanc, on pourrait l'interpréter comme l'innocent. Il meurt sur la croix, mais il n'est pas entaché du péché de l'homme. Il demeure l'innocent. Après, vous aviez qui avait parlé du visage dans l'ombre.
Oui, on ne
voit pas son visage. Eh bien oui, ça c'est important aussi, parce que ne voyons pas le visage, parce que ça c'est le Christ mort, hein, Christ en croix mort. Donc ne voyons pas le visage de Jésus. Dès lors, ça n'est pas en œuvre une comment on pourrait dire, toute la dimension émotionnelle, voilà. C'est-à-dire le visage est dans la pénombre, et donc Zurbaran, il veut rompre avec la dimension émotionnelle trop forte par rapport à ce qui se faisait à son époque. Donc il y a vraiment l'idée de rupture, on ne voit pas le visage, c'est le corps qui est dans la lumière, à tel point qu'on ne voit même pas la croix. La croix, on la devine plus qu'on la voit.
On a l'impression d'un morceau d'anatomie.
Oui, c'est vrai.
Une pièce d'anatomie.
Oui, c'est tout à fait juste. Donc vous voyez, le pas de côté, c'est, eh bien, on va se déplacer de l'objet du supplice pour ne voir que le supplicié. Et encore, le supplicié, on pourrait très bien l'identifier autrement. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de poussière, le corps est musclé, il n'est pas décharné, il est droit, il est harmonieux. Il y a un déplacement total, ce qui fait que, ben oui, en fait, il n'est pas interdit de voir de la beauté dans cette, non pas dans la crucifixion, parce qu'une crucifixion n'est belle, mais de voir de la beauté dans ce Christ-là, dans la manière dont il se donne, dont il s'abandonne, l'obéissance dont on a parlé, la fidélité. Même la stature qui donne quelque chose, qui montre quelque chose de l'autorité. Il y a une stature.
Est-ce que l'absence de visage, c'est l'humanité qui est crucifiée, c'est pas un homme en particulier?
Pourquoi pas, oui, je suis pas contre cette interprétation.
Il y a quelqu'un qui fait exprès de mettre aucun signe distinctif.
Oui. C'est comme si je vous suis, en étant l'humanité, c'est qu'il est la figure, figure de médiation, il est la figure de l'humanité que l'on crucifie. C'est-à-dire chaque homme peut se voir dans cette figure-là. Et le Christ est par excellence la médiation, par excellence.
Mais il n'y a pas un petit signe de résurrection quand même, parce que là, c'est vraiment Jésus mort.
Oui, oui.
Ouais. Il n'y a pas un petit signe qui montre qu'il va ressusciter.
Alors vous avez un théologien, Balthazar, que je connais un peu, qui dit, lorsque l'on vous regarde le crucifié, on doit aussi déjà voir le ressuscité. Donc, mais oui, mais regardez dans la manière de peindre ce Christ en croix, Zurbaran montre déjà quelque chose. C'est un Christ en croix mort qui est déjà dans la lumière. On a l'ambivalence, on a la pénombre et la lumière. Cette lumière-là, elle nous dit déjà quelque chose de la résurrection.
D'une certaine façon. On ne croit pas qu'il est mort.
Oui, ça c'est peut-être le problème.
Il est un peu dépersonnalisé.
Oui, peut-être.
Je suis allé voir le tableau de Velázquez.
Oui, oui.
C'est plus...
Il est plus rude.
Plus rude,
oui. Il est beau, mais il est plus rude. Ouais. Là, il y a un effacement de la douleur et même du sacrifice.
Oui, donc ça va à l'encontre de ce que vous... Du coup, on dit qu'il a souffert.
Oui. Mais bon, c'est pas pour illustrer la souffrance. C'était aussi pour vous montrer comment il est possible de voir aussi dans la souffrance du Christ, dans le don, dans son abandon, dans la croix, la beauté de l'amour. Il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est transfiguré sur la croix. Et donc la souffrance, elle est transfigurée en, en don, en grâce. Je vous disais, bah, l'obéissance, ce n'est pas une obéissance servile. Elle se fait don et au bout du compte, c'est une grâce. Et c'est une grâce que l'on reçoit parce que le Christ est mort pour nous. Enfin, et que sa résurrection, elle est le fondement de notre espérance chrétienne, puis notre espérance tout court. Donc il y a peut-être dans cette crucifixion une vision de l'espérance, parce qu'on y voit déjà le ressuscité, justement, peut-être.
Le corps n'est pas abîmé.
Non,
il y a ces clous qui sont d'une manière là un peu insolite, mais sinon le corps n'est pas abîmé.
Oui, c'est vrai. Et même pour les mains, on ne voit pas les clous. On les voit sur les pieds, mais pas... Il peut nous faire penser un petit peu au, vous savez, au Christ de Dali, là, qui prend son envol, un peu, qui surplombe,
un petit peu.
Il y a quelque chose que... Le fait qu'on ne voit pas les fondations de la croix, il y a quelque chose comme un élan, comme s'il était en suspension. Voilà.
Si ça vous intéresse, il y a d'autres crucifixions hein, qui nous montrent autre chose. Celle-ci de Pablo Picasso, par exemple. Ça, c'est tout à fait particulier. Regardez cette crucifixion-là. Donc le crucifié, il est là, il est en blanc. Il a la bouche ouverte, on pourrait presque parler de gueule ouverte. Hein ? Il est entouré de chaque côté de personnages qui sont, dans la représentation de cette crucifixion de Picasso, qui sont des femmes. Et ce ne sont pas n'importe quelles femmes. Ce sont les femmes qui ont fait souffrir Picasso. Ce sont les femmes de sa vie, en fait. Voilà. Et donc, il a représenté, il s'est personnifié dans le crucifié. Voilà. Il s'est personnifié dans le crucifié. Qui est finalement tout petit, regardez, il est tout petit. Et puis cette femme-là qui vient presque le mordre. Et puis celle-ci qui se moque de lui. Et puis par contre, on a des éléments de la crucifixion. Regardez le jet de dés qui vient départager les vêtements. Les vêtements de Jésus, voilà, on a quelques éléments. Voilà, la lance au côté, bon, on pourrait penser c'est Don Quichotte, voilà. Donc il y a plusieurs éléments, à la fois la menace et la moquerie, et lui au milieu. Voilà, donc ça, voilà. Mais l'art a cela de formidable, c'est que on peut s'emparer d'éléments religieux ou liés à la religion et interpréter et réaliser une œuvre qui dit et qui va au-delà de la dimension religieuse. Ça, c'est formidable. C'est aussi l'art contemporain et comme cela. Et c'est vraiment de pouvoir aller représenter autre chose, de pouvoir aller au-delà de ce qui est représenté. Puis l'échelle, regardez, ça nous fait penser à l'échelle de Jacob. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une interprétation tout à fait... Est-ce que j'ai autre chose ? Là, il y a le texte « Les souliers de Van Gogh », mais il faudrait que j'aie le texte à vous lire, parce que le texte, c'est un texte de Martin Heidegger, qui a fait une une interprétation des souliers aux lacets. Cela, on l'a vu. Bon, alors voilà des représentations, ce que peignait, je vous parlais des dessins, des commandes particulièrement. Voyez, donc ce blanc, toujours présent. Et on revient là. Voilà les trois triangles que je vous montrais tout à l'heure. Non, ouais, hop, voilà. Donc voilà une représentation d'un Christ qui est qui nous permet quand même de, et l'art permet cela. Alors là, on n'en est pas encore à la période où on s'émancipe du fait religieux, hein, comme dans l'art contemporain, mais où il est bien question de représenter la force, de représenter l'harmonie, et finalement de représenter un Christ en croix. Beau, mais qu'il faut tout de même dissocier du supplice qu'il subit. Donc on a vu aussi que voilà, on est déplacé de la souffrance corporelle vers une autre dimension qui n'est pas la dimension de la souffrance. Alors peut-être que c'est trop prégnant ici, on pourrait se dire ça, finalement tout est trop lissé. C'est ça.
C'est ce que vous disiez, il n'y a pas d'émotion.
Il n'y a pas d'émotion.
Enfin,
oui, c'est ça. C'est ça. Il est beau et en même temps, il n'y a pas de...
Il y a de la douceur.
Il y a de la douceur, oui, oui, oui. Il y a de la douceur, il y a de l'harmonie, il y a de la beauté. Il y a des interprétations sur voilà, la pureté de ce Christ. Alors peut-être que l'idée que de Balthazar, qui est quand même tout à fait recevable, c'est de dire bah, le crucifié est déjà le ressuscité, bien sûr qu'il est déjà le ressuscité. Peut-être que le fait qu'il n'y ait pas de sang, que le pagne soit blanc, nous indique qu'il est déjà le ressuscité. C'est-à-dire qu'il est déjà sur cette remontée des enfers et c'est possible. Bon. En tout cas, pour conclure, on pourrait dire que la souffrance de Jésus, la souffrance du Christ, on pourrait se poser la question, bah, qu'est-ce que sa souffrance implique comme perspective, comme signification de la nôtre de souffrance? Qu'est-ce qu'elle nous dit de notre souffrance, la souffrance du Christ lui-même? Est-ce qu'il y a une perspective pour l'homme? Est-ce que sa souffrance vient changer notre perspective, vient changer notre destin? Et puis en parlant d'obéissance ou de l'abandon, bah, à quel abandon ou à quelle obéissance nous-mêmes nous sommes invités à vivre? Alors déjà, pour l'abandon, souvent on dit « Jésus, sur la croix, est abandonné du Père ». En fait, la question de Jésus sur la croix, Jésus n'est pas abandonné par le Père, il n'est pas abandonné à la souffrance. Mais on pourrait dire « c'est parce que Jésus souffre que lui-même s'abandonne à l'amour du Père ». C'est pour ça qu'il y a dans la croix aussi la dimension d'amour, non pas dans la croix, mais dans l'abandon de Jésus, qui ne va pas s'abandonner à la souffrance, mais qui va tout remettre dans les mains du Père. Et s'il y a abandon, c'est abandon dans l'amour du Père. Alors bien sûr, il y a du silence, et on peut dire bah, à la croix, c'est le silence du Père, mais on pourrait dire à la souffrance du Fils, la parole se tait. La parole du Père se tait, c'est-à-dire que ça, on peut le comprendre. Il n'y a plus de parole, et d'ailleurs Jésus lui-même, à un moment donné de son procès, après être passé chez Ponce Pilate, il ne parlera plus. Donc à la croix, la parole se tait. Et donc, Dieu, le Père lui-même, est inaccessible. Lorsque Jésus meurt à la croix, c'est Dieu lui-même qui devient inaccessible. Parce que pour accéder au Père, on doit passer par le Fils. Donc là aussi, pour anticiper sur les figures de médiation, ben oui, le Fils, c'est le médiateur du Père. Le Fils mourant, on ne peut plus accéder au Père. Et on ne peut plus accéder à Dieu lui-même. Après, on pourrait parler de la souffrance. Est-ce que la souffrance de Jésus nous sauve ? En fait, pour reprendre les mots, je crois que c'est Jean-Noël Besançon qui dit « Mais la souffrance n'a jamais sauvé personne. » Qui donc ici peut dire qu'il a été sauvé le jour où il souffrait. Enfin, quand on souffre, on souffre. Bien, la souffrance de Jésus sur la croix, ce n'est pas une souffrance qui sauve, parce que la souffrance, et Jean-Noël Besançon a raison de dire, la souffrance n'a jamais sauvé personne. Ce qui sauve, c'est le don, c'est la grâce de Jésus qui accepte de mourir comme cela, par la croix, et qui s'en remet totalement aux mains du Père. Et c'est donc cet amour, cette confiance, ce don, cette grâce qui le sauve et qui le ressuscite et qui donc nous entraîne nous-mêmes à cette résurrection. Et ce qui va nous sauver, c'est cela, c'est pas la souffrance de Jésus. Sa souffrance, il l'a assumée pleinement, totalement, jusqu'au bout. Mais le paradoxe, c'est que notre salut est passé par la croix, est passé par sa souffrance. Donc on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Elle est passée par la souffrance, mais au terme, c'est la résurrection qui vient relever cela.
Puisque lorsque Jésus meurt, on n'a plus accès à Dieu.
Oui.
Il fallait qu'il y ait résurrection, non ?
Oui, il fallait aussi que le Fils de l'homme souffre, et que il fallait aussi, il fallait Joannick, il fallait que le Fils de l'homme souffre et que le troisième jour il ressuscite.
Il fallait.
De toute façon, la condamnation humaine attendait la réponse divine. Ça ne pouvait pas rester là. Voilà. C'était impossible. C'est comme dans l'évangile de Marc. On en a parlé peut-être ici, l'évangile de Marc se termine au verset 9, ça se termine sur la frayeur des femmes. Bon, il y a eu un rajout dans l'évangile parce que ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas se terminer sur la frayeur des femmes, parce qu'il y manquait la résurrection. La résurrection, c'est l'acte de puissance et l'acte de révélation accompli de Dieu en son Fils. Tout s'accomplit, tout est consommé là. Donc oui, vous avez raison, ça ne pouvait pas en rester à la croix, à la résurrection. Il fallait la résurrection. Mais vous voyez bien, quand le « il fallait », nous on l'envisage comme c'était la condition ultime, c'était la condition nécessaire. Moi je ne saurais pas vous dire s'il y a une nécessité en Dieu. Il n'y a sûrement pas de hasard, pour reprendre le livre de... Le hasard et la nécessité de ce chercheur, je ne sais plus. Ça date déjà. Mais il n'y a pas d'accident en Dieu, il n'y a pas de nécessité comme nous on le penserait, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que de la volonté de sauver les hommes par amour. C'est uniquement ça. Alors c'est vrai que ces mots, ils paraissent peut-être un peu désuets, mais en même temps, on voit bien que face à la croix et face à la mort du Christ en croix, on y perçoit quand même la force du don, quand même, me semble-t-il. Donc pour en revenir à votre remarque, eh bien oui, la résurrection, elle va venir combler une rupture qui est la rupture de la mort sur la croix. Et Balthazar, il va parler de hiatus. Il va combler ce hiatus qui est la mort de Jésus sur la croix. C'est-à-dire qu'à la résurrection, Dieu le Père devient à nouveau accessible. Donc la relation est nouée. Et l'homme n'est pas abandonné. Donc bien sûr que la résurrection, elle concerne le Fils en premier, puisqu'elle est pour elle, et elle est pour lui la résurrection. Mais elle est aussi pour nous. Et c'est-à-dire, de fait, nous sommes à nouveau réintégrés dans une relation médiatrice par le Fils ressuscité vers Dieu. La relation est tout à fait nouée. Et en plus, le don de l'Esprit à la Pentecôte vient reposer la dimension trinitaire aussi comme médiation pour aller vers le Père et le Fils. Et cette relation trinitaire, cet esprit, eh bien, les apôtres commencent par baptiser. Et ceux et celles qui se convertissent sont baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc nous sommes nous-mêmes, si nous avons reçu le baptême, intégrés dans cette relation trinitaire, dans ce don, dans cette grâce. Et normalement, chaque dimanche à la messe, lorsque nous allons vers l'Eucharistie, nous communions à la mort et à la résurrection du Christ, c'est-à-dire au don suprême et total et entier du Christ se donnant sur la croix et ressuscitant, étant ressuscité par le Père. Donc voilà, je terminerai juste par dire que c'est le temps de Dieu, on parlait du temps eschatologique tout à l'heure, que le temps de Dieu, il est pour l'homme, il est pour nous, et que le temps de l'homme, eh bien, il est en vue de Dieu, puisque c'est ça notre espérance, en fait. C'est, on vit, on meurt en vue de Dieu, parce que sinon, la vie n'aurait pas de sens, me semble-t-il. Il faut bien qu'on donne un sens. Voilà. Donc, on continuera la prochaine fois. Je ferai le petit aparté du début sur les figures médiatrices. Et puis ensuite, on fera la deuxième partie sur le mystère pascal, mais sur la dimension de résurrection. Il n'est pas dit que je répète des choses, mais c'est pas grave.
Merci.
De rien.